Stop, c'est parti.
Comment ça marche le journalisme?
Sur Twitter, Instagram.
On est dans un moment de grande confusion.
You are fake news.
La bonne réponse.
Il est 9h40, vous êtes tous sur France Inter et c'est l'instant M qui recommence.
Quand on regarde une série, on sait que ça va se terminer.
Mais ne spoiler.
Spoil.
On ne se ferme pas les yeux aussi facilement qu'on se bouche les oreilles.
15 janvier 2001, naissance de Wikipédia, une encyclopédie pour tous, écrite par tous. Un géant planétaire riche de 42 millions d'articles en 288 langues, mais pauvre de ne toujours pas héberger de publicité. Comme chaque année, Wikipédia nous demande un don. Mais à quoi bon? Comment fonctionne 18 ans après sa création ce monstre de savoir? Il est sans conteste plus fiable en termes de connaissances, moins méprisé qu'à son lancement. Mais à l'heure où le web devient le théâtre de grandes manipulations, voire de grandes déstabilisations, Wikipédia est-elle une cible? Le système Wikipédia est-il encore de taille?
L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Charles Van Doren, qui devint par la suite rédacteur en chef de l'Encyclopédie Britannica, disait que l'encyclopédie idéale devait être radicale. Elle ne devait plus être sûre. Mais si vous connaissez l'histoire de Britannica depuis 1962, l'encyclopédie était tout sauf radicale, toujours extrêmement sûre et indigeste. Wikipédia, à côté de ça, a commencé avec une idée radicale, celle que nous imaginons tous, un monde où chaque personne sur la planète ait un accès libre à l'ensemble de la connaissance humaine.
C'était Jimmy Wales, le fondateur de Wikipédia. Alors, je vous présente mon invité. Bonjour, Lucas Lévesque.
Bonjour.
Alors, j'ai bien cherché. Je n'ai pas trouvé votre fiche Wikipédia. Vous n'en avez pas?
Non, je ne suis pas assez connu pour ça.
Alors, du coup, vous allez vous présenter. Vous êtes membre du conseil d'administration de Wikimedia. Qu'est-ce que c'est que Wikimedia?
Alors, Wikimedia France est une association française de contributeurs à Wikipédia qui a pour vocation d'aider les autres contributeurs à contribuer et d'augmenter le savoir libre sur Internet et notamment sur les projets Wikipédia.
On appelle ça un chapitre.
C'est ça. C'est en fait ça, l'association fait partie d'un grand mouvement qu'on appelle le mouvement Wikimedia, qui est chapeauté à l'international par la fondation Wikimedia.
Elle est située aux États-Unis.
C'est ça, San Francisco. Et du coup, on a beaucoup d'échanges avec.
Alors le chapitre, c'est la France ou le chapitre, c'est la francophonie?
Alors le chapitre, c'est la France. Ouais. Il y a un chapitre dans d'autres pays francophones, comme le Québec, la Suisse, la Belgique.
Et qu'est-ce que vous appelez les cabales?
Les cabales, ce sont des groupes locaux de contributeurs.
Bienvenue, hein, bienvenue dans un monde incroyable.
Voilà,
oui.
Qui se regroupent dans une ville.
Oui.
Donc vous en avez à Lyon, à Rennes, à Paris,
Bordeaux. D'accord.
Voilà.
Et je précise que vous êtes bénévole.
Tout à fait.
Quelle est votre formation à l'origine?
Moi, à l'origine, j'ai une formation scientifique.
Ouais.
J'ai fait des études en géosciences fondamentales.
Ouais.
Et ensuite, je me suis orienté vers l'informatique.
Alors, on est mardi matin. Comme chaque mardi matin, il y a Xavier Delaporte à nos côtés.
Bonjour.
J'ai regardé, vous avez une fiche Wikipédia, Xavier, où j'apprends que vous appelez en réalité Xavier Delaporte des Vaux.
Bon,
j'apprends qu'à la rentrée 2018, vous avez rejoint l'équipe de l'émission L'Instant M de Sonia De Villers sur France Inter pour une chronique intitulée La Fenêtre.
Ben voilà.
Ils ont tout bon?
Bah
ils ont tout bon, les Wikipédiens.
Bon.
Quelques mots avec vous, Lucas Lévesque. On va commencer juste avant la chronique de Xavier, de pédagogie sur le fonctionnement participatif de Wikipédia. Quelle était l'idée de départ? L'idée de départ, en fait, c'était que seule la mise en commun de plusieurs savoirs pouvait petit à petit nous faire approcher de la vérité. Si j'essaye de résumer la philosophie de Jimmy Wales, personne ne sait tout, mais tout le monde sait un petit peu
tout
de
à
chaque
fait.
Chose, c'est ça?
Tout à fait. On est tous spécialistes d'un sujet ou on est tous intéressés par un sujet. On n'est pas obligé d'être un spécialiste. Et donc, quand on est intéressé par un sujet, c'est une forme de hobby, je dirais, de passe-temps. On a à cœur de chercher de l'information sur le sujet, d'en savoir plus, que ça soit une passion, que ça soit un métier, que ça soit juste un passe-temps. Et donc, l'idée de Wikipédia, c'est que en faisant ces recherches et en les inscrivant quelque part, en fait, elles restent pour les autres. Et donc, tout le monde peut avoir accès aux... Alors, c'est pas des recherches, puisqu'on fait surtout du résumé d'informations, mais du coup, on donne ainsi accès. On fait de la recherche pour soi, c'est un passe-temps qui peut être vraiment enrichissant.
Ouais, ouais.
Mais il n'est pas que pour soi, les autres y accèdent aussi, et donc on ne refait pas à chaque fois la roue.
Concrètement, comment ça se passe? Ça veut dire que chacun doit accepter de voir son travail perpétuellement modifié par les autres?
C'est ça. C'est en fait, Wikipédia, on considère que le savoir n'appartient à personne, en fait, qu'il appartient à tout le monde. Et donc, Donc tout le monde peut corriger quelqu'un, personne n'est à l'abri d'erreur, et donc c'est l'effet de la masse, on va contribuer à plusieurs sur un sujet et se corriger les uns les autres pour avoir un sujet qui va être traité à peu près neutrement, puisqu'on va avoir plusieurs points de vue dans le terme de traitement, dans les recherches, et puis surtout si
alors,
on est passé...
Alors il n'y a pas que les points de vue, il n'y a pas que la masse, il y a également les sources. Qu'est-ce qu'on appelle une source chez Wikipédia?
Alors une source, c'est tout ce qui a été publié avec une revue par les pairs, au mieux. Donc c'est les revues scientifiques, c'est des ouvrages qui ont été relus par des éditeurs, c'est tout ce qui est dans un système de relecture, c'est des sources de qualité.
Ouais.
On va plutôt parler de sources de qualité, puisque tout est une source, mais on a des sources qui sont beaucoup moins qualitatives. Et donc, c'est ce qui émane du sujet de l'article.
Ouais, ouais, ouais,
donc
ouais.
Si j'écris un livre sur moi, c'est pas une source pertinente pour faire un article sur moi,
d'accord,
puisque je veux pas être neutre sur moi.
D'accord. Combien d'articles mis en ligne chaque jour et combien de contributeurs?
Alors aujourd'hui, on est entre 16 000 et 19 000 contributeurs par mois, à faire au moins une modification. On est aux alentours de 300 articles par jour en plus. Et on a dépassé les 2 millions en fin d'année.
Et question bête, qu'est-ce que ça signifie Wiki? Puisque c'est Wikipédia, Wikimedia, Wikileaks
c'est
aussi,
ça.
Si je,
oui, oui.
Si
alors,
je
Wiki
fais un petit coucou à Julian Assange.
Le mot Wiki est pas propre à Wikipédia.
Non.
C'est le nom du logiciel qui permet de modifier la page qu'on est en train de regarder.
Mm-hmm.
Et ça date de 95, et c'est en fait un mot de hawaïen qui est Wiki, qui veut dire rapide, instantané en fait. Et du coup, c'est instantané, on modifie la page, une fois qu'on a validé, elle est en ligne.
La fenêtre de la porte, c'est Wiki, c'est maintenant, Xavier.
Oui, parce que se joue en ce moment dans Wikipédia une bataille passionnante. Son terrain, ce sont les articles qui parlent de la Chine. Et une très bonne enquête de la BBC raconte tout ça en détail. On observe depuis quelques mois des modifications constantes de certaines pages de l'encyclopédie en ligne, des pages qui traitent des questions problématiques pour la Chine, les manifestations à Hong Kong, Taïwan ou le Tibet. Il s'agit de modifications dans les pages en anglais et en mandarin, des modifications parfois subtiles, les manifestants hongkongais deviennent des émeutiers, parfois c'est beaucoup moins subtil, Taïwan n'est plus un état d'Asie du Sud mais devient une province de la République populaire de Chine. Alors, ces modifications qui sont très récurrentes ces derniers temps ont en commun d'aller dans le sens de la vision officielle du Parti communiste chinois. Alors il semblerait que tout ça soit la conséquence d'une stratégie pensée et coordonnée. On a vu apparaître en Chine des plaidoyers pour systématiquement modifier ce qui apparaît comme anti-chinois dans l'encyclopédie, comme ce très sérieux papier publié dans une revue chinoise de sciences sociales et intitulé « Opportunités et défis de la communication extérieure de la Chine dans Wikipédia ». D'autres appellent directement à l'action collective. Pour autant, il est très difficile de savoir si le gouvernement chinois est impliqué ou s'il ne s'agit que d'initiatives individuelles de zélés patriotes. L'encyclopédie est rodée aux tentatives d'influence dans la rédaction des notices. Depuis le début, c'est le cas, et tout un système très complexe sur lequel on reviendra de mise à disposition des modifications, de validation, voire de blocage existe pour y parer, mais manifestement, un degré supplémentaire a été franchi avec cette histoire. La communauté des Wikipédiens taïwanais dit faire l'objet aujourd'hui de menaces, certains contributeurs recevant des menaces de mort adressées personnellement quand leur opinion diverge trop du discours officiel chinois. Alors on peut à mon sens tirer plusieurs leçons de cette histoire. Bon, d'abord, elle rappelle qu'une encyclopédie, quelle qu'elle soit, est une vision du monde. Or, comme il n'y a pas une seule vision du monde, à partir du moment où cette encyclopédie ouvre la possibilité à tous de contribuer et permet techniquement la modification en continu, elle devient mécaniquement un lieu de confrontation des visions du monde. Pour le dire autrement, ça repose la vieille question qui écrit l'histoire, mais en direct. Ensuite, ça raconte l'affrontement de deux mondes. Celui d'un côté des Wikipédiens, c'est-à-dire l'utopie d'une communauté en ligne ouverte et faisant appel à l'intelligence collective, et de l'autre, l'ancien monde des États. Enfin, cette histoire dit que la Chine, qui longtemps ne s'est pas préoccupée de son image hors de ses frontières, veut prendre en charge son propre récit et qu'elle le fait là où c'est important aujourd'hui, c'est-à-dire sur Wikipédia. Mmh. En creux, c'est un immense hommage à la réussite du projet, une réussite qui n'est pas prête d'être contredite parce que elle profite des dernières évolutions techniques et en particulier des assistants vocaux, vous savez, ceux des téléphones et ceux des enceintes connectées. Ces assistants vocaux, quand on leur pose des questions de culture générale, du genre « Dis-moi Siri, Taïwan est-il indépendant ?» eh ben, ont tendance à puiser la réponse dans Wikipédia. Donc contrôler la réponse qui sera donnée au sein du foyer sans contradiction, l'enjeu est énorme. Bref, tout ça risque d'augmenter encore l'importance de Wikipédia, donc d'augmenter aussi les guerres dont elle est champ de bataille. Tout ça représente surtout des exigences supplémentaires pour celles et ceux qui font fonctionner l'encyclopédie.
Voilà, Xavier Delaporte à réécouter comme d'habitude sur franceinter.fr. La question des assistants vocaux, on va y revenir, Lucas Lévesque. Hein, je rappelle que vous êtes membre du conseil d'administration de Wikimedia en France. La fondation Fondation, hein, qui regroupe l'association des contributeurs. Comment vous réagissez à ce que vient d'expliquer Xavier? Parce que ça devient un enjeu majeur en réalité.
Ça devient un enjeu majeur en effet, pour éviter que des points de vue qui ne soient justement pas neutres, c'est-à-dire qui ne prennent pas en compte les autres points de vue, soient majoritaires sur les articles Wikipédia. Pour ça, on a la communauté de contributeurs, on a des règles de contribution, et quand la non-neutralité est de mise sur l'article, on arrive pour intervenir.
Mais ça demande... On arrive pour intervenir, ça veut dire
c'est-à-dire
quoi? C'est-à-dire
qu'on
met son chapeau de cow-boy et on fait comment?
Non, en fait, les articles, quand on contribue sur un article, on peut le mettre dans un outil qui s'appelle la liste de suivi, mm-hmm. et c'est tous les articles sur lesquels on a contribué, et donc on voit qui a contribué sur l'article après nous. C'est une sorte, c'est pas une surveillance, mais c'est juste une indication, et ça nous permet de vérifier que la personne qui passe derrière met pas n'importe quoi si on connaît un peu le sujet.
Et donc, mais on voit bien que votre système d'autorégulation s'est montré assez robuste jusqu'à présent, que la vérification des uns par les autres a garanti un relatif équilibre, mais que là, tout le web, hein, toutes les plateformes du web, tous les réseaux sociaux, notamment toutes les plateformes de partage, font face à vraiment à autre chose, c'est-à-dire à des grandes manipulations de l'opinion, voire à des grandes tentatives de déstabilisation de l'opinion. Donc, est-ce que Wikipédia est une cible? Manifestement, oui, l'exemple de la Chine est criant. Est-ce que Wikipédia est assez protégé? Est-ce que système Wikipédia suffit dans une période comme la nôtre aujourd'hui?
Alors oui et non. Le 9 septembre, vous avez eu un shutdown de Wikipédia. Quelqu'un a fait une attaque DDoS depuis, je pense que c'est la Turquie, mais j'ai pas eu l'information. Ça veut dire que le site était inaccessible en Europe. Alors on a détourné sur les systèmes américains pour que les gens puissent récupérer l'information, mais ça a mis quand même plus d'un jour à récupérer.
On parle d'une attaque informatique.
Voilà, c'est ça. Et donc on n'est pas à l'abri de ce genre de choses.
Voilà. Et pour ce qui est des attaques idéologiques,
politiques, ça peut être plus long à identifier.
Ouais.
En fonction de la provenance de l'IP, on est de la personne qui contribue, on est plus ou moins sensible. Et là, ça va juste demander la connaissance des gens, quoi. Moi, je suis incapable de patrouiller sur la Wikipédia en mandarin.
Oui.
Donc, ça va être aux personnes qui parlent mandarin de faire attention que ce bien commun, ce savoir en mandarin.
On parle de patrouille dans votre langage.
Ouais, on parle de patrouille.
On parle
tout
de
fait.
Patrouille.
Tout à fait. Et la patrouille, c'est elle vérifie les contributions des gens qui sont pas contributeurs, mais qui n'ont juste pas assez de contributions pour être confirmés.
C'est
et
ça.
Donc, on n'a pas
suspects.
À passer derrière. Voilà.
D'accord. Qui sont
c'est
suspects.
Juste les nouveaux, en fait, surtout, qui font des erreurs manifestes basiques, hein, de nouveau.
Ah,
donc,
ouais.
On est là surtout pour les accompagner.
L'Instant M. Tous les médias sont sur France Inter.
Les gens me demandent si je suis communiste ou anticapitaliste. Mais pas du tout. Je pense que c'est très bien que les gens gagnent plein d'argent. Mais on ne peut pas en faire avec tout. Pas avec un site internet culturel comme Wikipédia.
Vous n'avez pas de regret de ne pas être milliardaire?
Non, ma vie est bien plus intéressante que la leur.
C'est la plaisanterie récurrente avec Jimmy Wales, le cofondateur de Wikipédia, hein, qui est un ancien trader. Quand il a créé Wikipédia, il cherchait pas à faire du pognon. Et du coup, on en plaisante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est à la tête du cinquième site mondial, c'est ça? Et il est le seul géant du web et le seul fondateur d'un géant de l'Internet à ne pas être milliardaire. Mais manifestement, il s'en porte pas plus mal. Je l'ai dit, c'est le cinquième site le plus fréquenté au monde. Mais c'est aussi le seul site dans le top 10 mondial à ne pas être une société commerciale. Hein.
Tout à
On
fait.
Vient de parler de la fondation Wikimedia qui est basée aux États-Unis. Elle est entièrement financée par des dons. Il faut le dire, aucun des contributeurs n'est payé. Tout le monde est bénévole. À quoi sert l'argent, puisque vous nous en demandez en ce moment? Il y a des bannières et des bandeaux absolument partout sur le
Tout
site.
À fait.
Où va l'argent?
Où va l'argent? Vous pourrez trouver les comptes détaillés de la fondation américaine. On est transparent sur tous nos comptes, donc vous pouvez avoir les détails. En fait, cette année, pour vous donner une ordre d'idée, on est à 90 millions de budget en termes de dons, de retour de dons. Et à peu près entre 50 et 70 millions viennent pour les serveurs, puisqu'on est le cinquième site mondial, mais comme on n'a pas de service...
Donc vous avez beaucoup de besoins financiers pour entretenir les serveurs et pour les développer.
C'est ça, c'est non seulement le stockage, mais c'est aussi la sécurité informatique pour ceux qui accèdent à Wikipédia, ceux qui contribuent à Wikipédia. Cet argent va vraiment être sur la technique, on en met une majorité.
D'accord. D'accord. Il y a aussi énormément de bourses qui sont accordées aux différents pays, aux différents chapitres.
Tout à fait.
Ces bourses, elles servent à quoi concrètement ?
Elles servent à l'animation de communautés sur place.
Oui.
Comme la fondation estime que elle a pas la connaissance culturelle de sur place, elle préfère payer des gens sur place pour animer les communautés, les lancer. Et donc, on essaye de redistribuer l'argent, notamment aux communautés qui en ont le plus besoin. Donc aujourd'hui, on met pas mal d'argent en Afrique.
Mm-hmm.
On a plusieurs communautés qui se sont mises en place au Bénin, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, qui sont vraiment actives, j'en oublie plein. Et donc c'est là où on va justement, elles ont besoin d'argent pour se développer localement. Et après, en France aussi, on a un peu d'argent, qui nous permet de faire de l'accompagnement aux institutions culturelles.
Oui.
Voilà, on aide les musées à améliorer les articles sur les sujets qui les concernent,
oui,
et à mieux comprendre Wikipédia.
D'accord, d'accord. Voilà. Vous avez aussi de très gros donateurs, Microsoft, eBay, Facebook, Orange, Google, qui donnent par millions de dollars, Amazon également. Avant d'en venir au chapitre bien précis des assistants vocaux, comment ça se passe? Quelles sont les garanties d'indépendance vis-à-vis de ces gros donateurs? Par exemple, est-ce que dans toutes les fiches Wikipédia qui traitent d'Amazon, de Google, de Microsoft, quelles garanties de neutralité vis-à-vis de ces gens à qui vous êtes redevable de millions de dollars donnés chaque année?
Alors, on ne reçoit pas tant que ça chaque année.
Mm-hmm.
Ça représente 1 à 2 millions de grandes donations chaque année.
Mm-hmm.
En fait, la donation va à la fondation,
oui,
mais la fondation, elle n'est qu'hébergeur de Wikipédia, elle
d'accord
n'a aucun rôle éditorial.
D'accord.
Le rôle éditorial est dévolu aux contributeurs en ligne qui sont tous bénévoles et qui n'ont pas d'intérêt particulier avec Amazon ou tout ça, et qui sont... c'est le bénévolat et le volontaire qui fait que c'est neutre.
Alors Xavier Delaporte a fait mention des assistants vocaux, donc ce sont ces petits robots qui s'installent dans toutes nos maisons, dans tous nos téléphones. On leur dit « Salut Alexia, salut Siri, dis-moi ce que tu sais sur Xavier Delaporte » et hop, il vous répond et hop, ça va puiser dans Wikipédia. Du coup, il y a eu un coup de gueule de la Fondation disant « Notre savoir, il est à disposition de tous gratuitement, c'est normal, mais il y a une différence entre utiliser notre savoir et l'exploiter commercialement ».
C'est vrai. Et l'exploiter commercialement, c'était le fait qu'on a gueulé parce qu'on n'avait pas de retour. C'est-à-dire qu'ils nous exploitaient commercialement, ils gagnaient pas mal d'argent.
Oui.
Et entre-temps, ils ne faisaient pas en sorte que ce savoir perdure,
mm-hmm,
alors qu'ils l'utilisent. Et le principe d'un bien commun, c'est que chacun y mette un peu, même si quelle que soit la manière dont il l'exploite. Et c'est pour ça que la Fondation a gueulé un peu et qu'on a demandé à ce qu'on ait un peu de retour financier parce que cette exploitation, si nous on tombe, ce savoir tombe.
Voilà, voilà, d'où les dons. Une dernière question, Lucas Lévesque. On parle beaucoup de l'exploitation du recueil et de l'exploitation des données personnelles,
mmh,
sur les géants des nets. Alors, on est très nombreux à passer beaucoup de temps tous les jours à aller glaner de l'information sur Wikipédia. Est-ce que vous enregistrez notre navigation? Est-ce que vous savez qui je suis? Combien de temps je passe sur chaque fiche? Et comment je saute d'une fiche à l'autre? Quels sont les sujets qui m'intéressent?
Mmh. Non, on n'a pas des données aussi précises. On enregistre l'IP du lecteur ou de la lectrice,
mmh,
et on regarde les pages qu'elle lit.
Quand même, ouais.
Voilà.
Vous en faites quoi de ces informations?
En fait, on va les anonymiser.
Oui.
Donc, dans la base, on va avoir juste le nombre de vues par page. Je ne sais pas si on a le nombre de temps passé, je ne suis pas certain.
Mm-hmm.
Et ces données sont toutes accessibles, mais elles sont toutes anonymisées. Donc, personne n'a accès à l'information de savoir qui a vu quoi. Et c'est notamment en protection dans les pays où il y a plus de censure, comme la Turquie, l'Iran ou la Chine, pour protéger les gens, pour qu'ils aient quand même accès au savoir.
Je vous remercie beaucoup, Lucas Lévesque.
C'est un plaisir.
Venu nous parler de Wikipédia, qui en ce moment fait sa collecte de fonds et de dons. C'est la fin de l'Instant M.